Nous vivons en démocratie, un système qui a beaucoup de mérites, mais sous lequel le citoyen doit garder en tête que nul n'est censé ignorer la loi. Sous le régime de l'ancienne alliance, c'était pareil. Je continue à lire dans le troisième chapitre de Malachie. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Verset 22. La Septante, l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament, place ce verset 22 du chapitre 3 à la fin de la prophétie de Malachie, parce que les traducteurs ont trouvé qu'il constituait une belle conclusion de l'Ancien Testament, plutôt que le verset 24, jugé trop brutal, mais qui est la véritable fin de toute la révélation de l'Ancienne Alliance. L'exhortation, rappelez-vous, est une menace semblable à un coup de semonce. Le verbe employé signifie à la fois « faites bien attention », prenez au sérieux et observez, mettez en pratique. Il revient 14 fois dans le Deutéronome, un livre qui répète les ordonnances de la loi à la seconde génération d'Hébreux sortis d'Égypte. La référence à Moïse, mon serviteur, rappelle sa fidélité qui est également soulignée dans le Nouveau Testament. Le nom de Moïse évoque également la puissance de feu de l'Éternel qui, au moment de l'Exode, prononça ses jugements contre les Égyptiens et accorda le salut à son peuple. Le Seigneur est aussi le Dieu vivant qui terrifia les Israélites quand il donna les 10 commandements, appelés « tables de l'Alliance » à Moïse sur le mont Horeb, qui est un autre nom pour le mont Sinaï. En fait, cette montagne était familière à Moïse, car dans le célèbre passage du buisson ardent, on lit que Moïse faisait paître les brebis de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Malachie rappelle à ses contemporains que la loi de Moïse est pour tout le peuple d'Israël. Où qu'ils se trouvent, que ça leur plaise ou pas, les Israélites sont dans l'obligation d'obéir à la loi parce qu'elle vient de Dieu. S'ils l'avaient respectée, ils seraient restés unis dans le pays que Dieu leur avait donné. Si les Israélites veulent être en sécurité le jour de l'Éternel, quand il viendra pour exercer ses jugements, et s'ils désirent recevoir ses bénédictions, ils doivent observer toutes les ordonnances de la loi de Moïse, autant les aspects légaux, moraux que cérémoniaux. C'est ainsi que Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, marque de son sceau la nécessité de l'obéissance à tout l'enseignement de Moïse tel qu'il se trouve dans les 5 premiers livres du canon biblique. Ce canon est appelé le Pentateuque. En rappelant au peuple son devoir, Malachie soutient le ministère de Néhémie qui, appuyé par les Israélites pieux, a dit « À cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. L'acte scellé a été signé par nos dirigeants, nos lévites et nos prêtres. Tous donnèrent leur soutien aux compatriotes les plus considérés d'entre eux. Ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances et à les appliquer. La loi que l'Éternel avait donnée à son peuple devait le préserver de tout malheur, lui procurer l'abondance et de multiples bienfaits. Mais Israël ne l'a presque jamais respecté et a dû subir les conséquences de son incessante rébellion. À l'époque de Malachie, un nombre élevé d'Israélites avaient abandonné la loi, en faisaient à leur tête, divorçaient leurs épouses pour une païenne idolâtre. Et pour couronner leur révolte, ils osaient murmurer contre Dieu. Il était donc nécessaire pour ce peuple de se repentir, de s'humilier devant l'Éternel et d'être fidèle au contrat d'alliance qu'il avait établi avec les ancêtres. Malachie replace en quelque sorte les Juifs sous la protection et bénédiction de la loi jusqu'à ce que l'Éternel vienne en personne. Selon qu'ils obéiront fidèlement aux ordonnances de la loi ou les violeront à nouveau, la venue du Messie sera pour eux un soleil aux rayons bienfaisants ou une fournaise ardente qui dévore les rebelles. On connaît la suite. Au premier siècle, Israël a rejeté Jésus-Christ et en l'an 70, Jérusalem fut transformée en un gigantesque bain de sang. Les Romains mirent fin à la nation et déportèrent ceux qui survécurent au massacre. Je continue le texte de Malachie. « Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. » Verset 23. Il a déjà été question d'Élie, ou plutôt d'un nouvel Élie, c'est-à-dire un prophète dont le ministère sera comparable à celui du premier Élie, le Tishbite, qui fut appelé par l'Éternel à exercer un ministère sous le règne du couple infernal Achab et Jézabel. Cette princesse phénicienne, qui était idolâtre jusqu'au bout des ongles, tenta d'imposer le culte de Baal dans le royaume des 10 tribus du Nord. Mais Élie lui résista avant d'être lui-même pourchassé par cette femme maudite comme un vulgaire gibier. Malachie annonce ici qu'avant l'arrivée du jour de l'Éternel, Élie viendra. Est-ce un nouvel Élie ou Élie le Tishbite lui-même? Dans son évangile, Matthieu déclare que Jean-Baptiste est le précurseur qui a préparé la venue du Seigneur. Alors que ce brave homme moisit dans une geôle en attendant son exécution, le texte dit que, du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité çà et là par le vent ?»« Oui, qui donc êtes-vous allé voir ?» Un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin ». Quant à Luc, dans son évangile, il rapporte qu'avant la naissance de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel est apparu au prêtre Zacharie qui en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. » Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. D'après ces deux passages des évangiles de Matthieu et de Luc, le nouvel Élie et Jean-Baptiste se confondent. Il ne fait donc aucun doute que le nouvel Élie n'est autre que Jean-Baptiste. Cette compréhension est confirmée par l'évangile de Matthieu. En effet, après la mort de Jean-Baptiste, Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu, et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était vu comme un prophète et tenu en haute estime par le peuple d'Israël et même par Hérode, le tétrarque appelé Antipas. Fils d'Hérode le Grand, cet homme était roi de Judée et juif de nom et peut-être un peu de religion. Pourtant, à l'exception des disciples de Jésus, et encore, seulement après sa mort, nul ne croyait que Jean-Baptiste était le précurseur annoncé du Messie. En tant que prophète, avec l'esprit et la puissance d'Élie, il crachait le feu. Mais quand il s'est mêlé de la vie privée d'Hérode Antipas, les choses ont mal tourné pour lui. Je lis le passage. Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait « Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme ». Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste ». Cette demande attrista le roi. Mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Jean-Baptiste a bien reconnu qu'il était celui qui préparait le chemin du Seigneur, mais il a également nié être Élie. L'apôtre Jean écrit « Voici le témoignage de Jean lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » « Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu ? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe. La voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Comment Jean-Baptiste peut-il être le nouvel Élie sans être Élie? C'est très simple. Avant le début du ministère de Jésus-Christ sur terre, Jean-Baptiste est apparu en tant que nouvel Élie parce qu'il avait l'esprit et la puissance d'Élie le Tishbite. Depuis lors, Jean-Baptiste est mort et Jésus est retourné dans les cieux. Mais le Christ reviendra en tant que Messie. Et avant son retour, ce sera Élie le Tishbite en personne qui le précédera. Ce prophète fut enlevé de terre, ravi de corps, et ne connut donc jamais la mort. Un texte dit que pendant que lui et son aide-de-camp Élisée continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu, tiré par des chevaux de feu, vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Les Juifs de tous les temps ont cru que le prophète que mentionne Malachie à la fin de son livre est Élie le Tishbite, celui qui a exercé un ministère sous le règne du roi Akab. D'ailleurs, l'ancienne version grecque traduit ce verset de Malachie par « Voici, je vous envoie Élie le Tishbite, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. À l'époque de Jésus, les scribes, c'est-à-dire les spécialistes de la loi, croyaient que Élie le Tishbite précéderait la venue du Messie. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Effectivement, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre, or je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. » Le Seigneur faisait allusion à deux personnes différentes. D'abord à Élie le Tishbite et ensuite à Jean-Baptiste qui lui est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, mais qui n'a pas remis toutes choses en ordre comme Élie le Tishbite le fera quand il viendra pendant la grande tribulation, juste avant que le Seigneur ne revienne pour juger le monde. Élie est donc l'un des deux témoins mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Je lis le passage. « Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort, ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les regards de leurs ennemis. Ces deux témoins auront un ministère similaire à celui que Élie puis Élisée ont exercé dans le royaume israélite des 10 tribus du Nord. En s'opposant aux impies de leur époque, ces deux prophètes ont permis à beaucoup d'Israélites de revenir à l'Éternel leur Dieu. Pareillement, les deux témoins qui œuvreront pendant la grande tribulation amèneront beaucoup de Juifs à se repentir et à placer leur confiance en Jésus. Ainsi sauvés, ils échapperont au jugement du jour de l'Éternel quand le Messie reviendra pour détruire tous les impies du monde. Je finis maintenant le livre de Malachie et l'Ancien Testament. Le prophète Élie le Tishbite tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier. Verset 24. Comme je l'ai dit, le ministère d'Élie aura lieu pendant la grande tribulation et consistera à prêcher la repentance au peuple juif, c'est-à-dire les fils, afin qu'ils reviennent à l'Éternel et à la même foi que ses ancêtres, c'est-à-dire les pères, Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Moïse et David. De toute évidence, Abraham envisageait par la foi la venue d'un Messie, car Jésus a dit à ses contemporains, « Abraham, votre père, a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et a été transporté de joie. » Les dernières paroles de l'Ancien Testament sont une menace liée au jour de l'Éternel, grand et terrible. Cet événement unique sera le point d'orgue de toute l'histoire de l'humanité. Anticipé par les prophètes, c'est l'un de leurs thèmes principaux. La force des avertissements contenus dans le livre de Malachie repose autant sur la certitude du jugement à venir que sur la grâce que l'Éternel offre à tous ceux qui acceptent de se repentir en s'humiliant devant lui. À la fin du Nouveau Testament et du livre de l'Apocalypse, il est aussi question de jugement et de salut, mais avec davantage de sévérité et plus de détails sur celui qui revient pour régner. Je lis ce passage. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. » L'Ancien Testament se termine sur une note très menaçante. Ceux qui entendront les deux témoins de l'Apocalypse sont sommés de se repentir, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier. Vouer le pays consiste à le frapper d'interdit, c'est-à-dire exterminer tous ses habitants. C'est ainsi que l'Éternel a traité les Cananéens. Élie prêchera la repentance aux Juifs, et s'ils ne placent pas leur foi en Jésus-Christ comme Messie, ils partageront l'anathème qui frappera les impies et ils seront détruits. La première promesse de Dieu à Israël a été de lui donner le pays de Canaan. La dernière menace est de le lui enlever. Et c'est avec cette menace, la plus terrible de toutes, que le Dieu de l'Alliance prend congé de son ancien peuple et le laisse désormais marcher à la clarté des révélations qu'il a reçues.